Pour la prédication d'aujourd'hui, nous allons rester dans ce thème du dimanche de l'Église persécutée et continuer à méditer à cette réalité de la persécution, cette réalité tragique, malheureuse, dans l'unité avec nos frères et sœurs dans les autres pays. Et puis j'ai, pour introduire cette prédication, je vais vous faire la lecture de deux courts passages dans l'Épître aux Hébreux. Premier passage dans Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. « Rappelez-vous ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. Ou bien on vous a insulté et on vous a fait souffrir devant tout le monde. » Ou encore, vous avez soutenu ce qu'on traitait de cette façon. En effet, vous avez souffert avec ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, parce que vous le saviez, vous possédiez une richesse plus grande et qui dure toujours. Et un autre verset encore que je vous lirai, c'est celui qui était mis en évidence sur le Quad 9. Souvenez-vous, encore un appel à se souvenir, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Et on peut laisser ce verset encore affiché. La construction de la phrase de ce dernier verset est assez étonnante, puisqu'on aurait pu attendre une autre fin au niveau du verset, un parallélisme plus évident. On aurait pu attendre « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez maltraités avec eux. » Et la deuxième partie de la phrase dit autre chose. « Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. » La première façon de comprendre ce verset fait référence au corps physique, celui que nous avons, fragile, susceptible de souffrir de multiples façons. Et en se le rappelant, les destinataires de l'Épître seraient aptes alors à comprendre ce que peuvent être les souffrances des croyants maltraités, ce qu'ils peuvent ressentir dans leur corps, parce que nous aussi, nous avons un corps. Il pourrait même y avoir ici une référence au fait que certains des lecteurs de l'Épître pouvaient se souvenir de la maltraitance qu'ils avaient eux-mêmes subie dans leur corps, comme dans le verset que je vous avais lu avant. Rappelez-vous de ce qui s'est passé autrefois quand vous avez reçu la lumière de Dieu. Tout de suite après, vous avez beaucoup souffert et vous avez résisté en combattant durement. La phrase deviendrait alors « Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme vous un jour, vous avez été maltraités dans votre corps. » Mais vous le savez, le mot « corps » désigne aussi une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Et la deuxième façon de comprendre ce verset serait de comprendre le mot « corps » dans son sens spirituel. Il ne s'agirait pas du corps physique, mais du corps spirituel qu'est l'Église de Jésus-Christ, corps du Christ. C'est une des images courantes de l'Église dans le Nouveau Testament, et la phrase, on pourrait alors du coup la dire de cette façon, « Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous faites partie du même corps. » Ça conviendrait bien, assez bien, avec la première partie du verset. On peut penser à ce long développement de la métaphore de Paul dans l'Épître aux Corinthiens sur l'Église comme un corps. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Nous sommes appelés à nous souvenir des chrétiens persécutés parce que nous sommes comme eux, dans une même condition de fragilité où notre corps peut souffrir de multiples façons, y compris à cause d'une opposition. Et on peut même un jour, et même l'opposition que l'on connaît aujourd'hui pourrait même un jour se transformer en persécution. Nous ne sommes pas à l'abri. Souvenons-nous qu'il suffit de remonter quelques siècles seulement dans notre pays pour voir en France des chrétiens protestants persécutés en France, contraint au culte clandestin, à l'exil, mis en prison ou envoyé aux galères à cause de leur foi. Ce n'est pas si loin. Et nos frères et sœurs aujourd'hui qui sont persécutés dans le monde ne sont pas si loin non plus que cela, géographiquement. Nous sommes appelés aussi à nous souvenir d'eux parce que nous faisons corps avec eux, parce que nous sommes membres du même corps. Et si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre est persécuté, c'est tout le corps qui est persécuté. Ce qui se passe pour les chrétiens en Irak, en Érythrée, en Iran, en Centrafrique, en Afrique subsaharienne, comme on vient de l'évoquer ce matin, tout cela nous concerne en tant que famille spirituelle. Ce sont nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Et on l'a bien entendu dans cette exhortation du pasteur Barnabas, dans la vidéo. Imaginez que ce soit votre frère. Eh bien, c'est votre frère ou votre sœur qui souffre actuellement dans ce camp de déplacés à cause de la persécution. Portes ouvertes, l'association Portes ouvertes nous propose différentes façons d'exprimer notre solidarité avec les frères et sœurs de l'Église persécutée aujourd'hui, les informations, les pétitions, on a l'occasion d'en signer une, les courriers, la possibilité de faire des dons, mais la première et sans doute la plus importante façon d'exprimer notre solidarité, c'est la prière. Et nous avons prié pour eux et nous continuerons à persévérer dans ces sujets de prière pour eux. Car la prière, elle nous lie, non seulement elle nous connecte à Dieu, mais elle nous connecte aussi les uns aux autres. Lorsque vous priez pour quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque vous priez même pour les persécuteurs, comme nous avons prié pour eux ce matin, eh bien, au lieu de ressentir peut-être de la haine ou un désir de vengeance par rapport à tout le mal qu'ils peuvent commettre, nous éprouvons pour eux de la compassion et nous leur souhaitons le meilleur, de rencontrer le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui même qu'ils persécutent. Et cette prière nous connecte les uns aux autres, par-delà les frontières et les cultures. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Le texte qui a été mis en avant pour ce dimanche de l'Église persécutée est le suivant, un texte rempli d'espérance, Romains 8, versets 38 et 39. « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette promesse extraordinaire qui nous est adressée même dans les pires circonstances de notre vie. L'amour de Dieu, c'est ce que ce texte nous dit, nous atteint. Rien ne peut empêcher l'amour de Dieu de nous atteindre et de nous garder en lui. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus lui-même et les premiers chrétiens, la persécution a accompagné les croyants et ceux qui voulaient plaire et servir Dieu. Jésus explique la persécution par ses paroles en Jean 15. « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Dans les premiers siècles, vous le savez, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution. Nombre d'entre eux moururent en martyrs. L'opposition à Dieu et ses enfants est présente dans la Bible. La Bible ne nous cache pas cette réalité dès les premières pages de la Bible, et elle l'est dans l'histoire passée et aussi dans l'histoire présente de l'Église, comme si cette parole de Jésus, si difficile à recevoir et à entendre, n'avait jamais quitté l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Jérôme est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Oïcha, c'est ce camp que nous avons vu, une ville, non peut-être c'est un autre, une ville dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Il dit « J'ai fui parce que les membres des forces alliées avaient tué mon fils ». Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé. Nous n'avions plus rien. Et effectivement, sur une des photos, on peut voir cet homme avec sa famille et à quel point il manque même du nécessaire. Le pasteur Barnabas, que nous avons vu dans la vidéo du Nigeria, a été brutalement attaqué par des militants Peul, un groupe d'extrémistes islamiques, responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. J'étais à la ferme avec mon frère Everen et sa femme Friday, se souvient Barnabas. Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Everen et Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour le pasteur Barnabas. « Mon frère a été abattu, dit-il, par les militants, et la femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette, explique-t-il. » Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal resté dans sa main, qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. La Bible affirme pourtant que l'amour de Dieu repose sur tous ses enfants, même dans la pire souffrance ou la persécution. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une manifestation de cet amour de Dieu est de nous accorder la délivrance, la victoire dans l'épreuve, mais pas toujours. Il y a plusieurs manifestations de cet amour de Dieu. Ça signifie quoi avoir la victoire d'ailleurs et être délivré de l'épreuve ? Dans Hébreux 11, ce chapitre qui liste de nombreuses personnes ayant obtenu une forme de victoire par la foi, cette liste montre clairement deux manières d'être victorieux. Soit des personnes ont pu échapper à la persécution, soit rester fidèles dans la persécution. Et ces deux faits sont des manifestations de l'amour de Dieu. Lorsque nous voyons avec tellement de peine ce qui se passe dans ce camp, avec ces espèces de tentes qui ne sont même pas aussi bien que nos tentes chez nous, et de voir la persévérance de ses frères et sœurs quand même se raccrocher à ce qu'ils ont, à ce qu'ils connaissent de Dieu, de son amour, rien que cela, c'est déjà, même s'ils ne sont pas encore complètement sortis d'affaires, délivrés, ils n'ont pas eu la victoire, ils attendent des exaucements de prière, mais ils restent fidèles, et cela est déjà un fruit et une manifestation de l'amour de Dieu. Cette même réalité nous concerne nous aussi aujourd'hui dans nos propres difficultés. Nous demandons à Dieu des choses, Peut-être nous ne les avons pas encore. Nous attendons de voir ce que Dieu va faire dans l'avenir avec les sujets que nous lui confions avec persévérance. Mais nous nous accrochons au Seigneur lui-même et cela est déjà une manifestation de son amour. De nombreux chrétiens d'ailleurs témoignent d'avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Je suis sûr que parmi nous, je sais que parmi nous, plusieurs pourraient en témoigner qu'au cœur de la souffrance, il y a eu des belles choses qui ont été vécues avec le Seigneur dans les moments, au cœur des moments les plus difficiles. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible elle-même rapporte aussi des témoignages dans ce sens. Après avoir été fouetté, il est écrit en Actes 5, 41, « Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. » Pierre explique aussi dans sa première épître que si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4,14. Cette réalité est difficilement explicable, mais lorsque nous prenons position pour Dieu ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse ce qu'on peut comprendre, l'intelligence, l'entendement, une paix aussi divine peut nous envahir. Une joie, une paix dont la douceur et la beauté dépassent la souffrance endurée. Et cela est un effet de l'amour de Dieu. Dieu qui nous permet d'expérimenter son amour au cœur des difficultés et des épreuves. L'amour de Dieu n'abandonne jamais ses enfants, n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais. Cela dit, nos frères et sœurs de l'Église persécutée ont besoin de nous, ce besoin a aussi été exprimé. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection, des marques concrètes d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Et il y a l'association Portes Ouvertes, il y a d'autres associations aussi qui s'occupent des chrétiens persécutés. Mais celle que nous connaissons probablement le mieux, le plus naturellement, c'est cette association Portes Ouvertes. Il y aura la possibilité tout à l'heure d'ailleurs, si vous le souhaitez, il y a une boîte à dons aussi pour qui ira directement pour ses frères et sœurs en difficulté et dans le besoin. L'association Portes Ouvertes s'occupe de défendre les chrétiens persécutés avec même l'arsenal juridique quand il est nécessaire auprès des pouvoirs publics, avec une aide d'urgence alimentaire et médicale, des soins post-traumatiques, de la fourniture de Bible et de littérature chrétienne. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus et rien ne les séparera non plus de notre amour, car ils sont nos frères et nos sœurs. Amen.